Alors, mon frère, bonjour.
Bonjour.
Et si on commençait par essayer de définir cette fameuse notion de face qui régit en Chine tous les rapports sociaux?
Alors, ça va être un peu compliqué de définir en quelques mots. Je vais essayer de faire un petit résumé sur cette notion de face. Donc, d'abord, dans la face englobe beaucoup de choses. Elle aborde des aspects d'étiquette, de hiérarchie, de politesse, de respect. Tout d'abord, la face, c'est tout d'abord une notion d'orgueil, à savoir que lorsqu'on dit que quelqu'un a perdu la face, on pourrait presque dire qu'il a été vexé personnellement. Mais la face, ça va bien au-delà de ça, ça va bien au-delà de cette simple notion d'orgueil personnel. Il y a surtout une notion de position sociale, de position sociale et d'image sociale. Donc, lorsque vous faites perdre la face à quelqu'un, ce n'est pas simplement une vexation personnelle que vous allez lui causer, mais aussi et surtout, vous risquez de lui faire perdre sa position vis-à-vis des autres, vis-à-vis du groupe. Et enfin, la face, c'est aussi une question une forme de politesse, de respect, de diplomatie qui s'attache avant tout à entretenir de bonnes relations. À savoir que les Chinois s'occupent énormément donc d'entretenir cette relation avec leurs interlocuteurs. Et dans ce contexte, donner de la face et sauvegarder la face de l'autre est tout aussi important que de ne pas perdre la face soi-même. Voilà, ce sont vraiment les trois aspects importants de la face en résumant un petit peu.
Est-ce qu'on pourrait trouver un seul mot français qui pourrait résumer tout ça?
Un seul mot. Alors, on va prendre le mot respect, puisque c'est avant tout entretenir la face, prendre soin de la face de l'autre, c'est avant tout le respecter. Voilà, un respect.
Ok, très bien. Les sociétés occidentales et chinoises ne fonctionnent pas sur les mêmes fondamentaux.
Oui, alors là, par rapport à la face, j'aborderai surtout une grande différence fondamentale entre la société occidentale et la société chinoise. C'est que la société chinoise est avant tout une société collective qui fonctionne en groupe, c'est-à-dire que les Chinois fonctionnent en groupe avec chacun une position par rapport au groupe. Donc le groupe, ça peut être la famille, ça peut être la région ou toute la Chine. La Chine fonctionne un petit peu comme une grande famille, alors que dans les sociétés occidentales, individualistes, les gens vivent ensemble, mais c'est davantage les uns à côté des autres. Et ça constitue vraiment une grosse différence entre les deux sociétés pour expliquer ce qu'est la face.
Quelle est l'origine historique de cette notion?
Alors l'origine historique, la notion de face, perte de face ou sauver la face, ça nous vient directement de la Chine. Ça a été importé à la fin du 19e siècle en Europe par les communautés européennes qui se trouvaient en Chine, qui ont rapporté cette expression perdre la face en Europe, comme si avant, en fait, avant cela, il n'y avait pas on ne perdait pas la face en Europe. Alors, évidemment, il y avait d'autres expressions, d'autres façons de le dire, mais d'autant plus en Chine, il y a beaucoup d'autres expressions. On parle beaucoup de perdre la face, sauver la face aussi, donner de la face un petit peu moins, mais il y a aussi déchirer la face, avoir de la face, ne pas vouloir la face, etc. Tout un tas d'expressions qui existaient depuis des siècles en Chine. Donc ça vient vraiment directement de la Chine.
Alors, depuis des siècles, est-ce qu'on peut dire que Confucius, c'est une bonne date?
Oui, ça tourne autour de Confucius. Alors exactement les origines et la relation exacte avec Confucius, je n'en ai pas tous les détails, mais évidemment, la face, on parle beaucoup de cet aspect d'orgueil ou de réputation également, ou d'honneur, on pourrait dire, pour le rapprocher d'une notion occidentale. Mais la face comporte aussi beaucoup de notions de rite, à savoir qu'on parle beaucoup en Chine, on va parler de donner de la face ou de recevoir de la face. Lorsqu'on offre un cadeau ou lorsqu'on invite au restaurant. Donc tous ces rites qui sont des rites qui sont vraiment liés à Confucius sont aussi liés à la face. Donc on pourrait dire que il y a un lien vraiment très étroit effectivement avec Confucius et tout ce rituel.
Comment avez-vous été amené à vous intéresser à ce sujet?
Alors, j'ai vécu donc en Chine pendant 8 ans Et j'étais toujours intéressée par tous les sujets de communication interculturelle. Et à vrai dire, au départ, je voulais faire un livre sur la communication entre les Chinois et les Occidentaux de manière générale, ou les Français, mais de manière générale les Occidentaux. Et je me suis rendu compte que ce sujet-là revenait tout le temps, aussi bien quand j'interrogeais des Chinois que des Occidentaux. Il y avait toujours la face qui revenait. Donc, et je me suis rendu compte à ce moment-là que beaucoup de malentendus et beaucoup de problèmes de communication venait directement d'un problème de face ou d'une incompréhension de la face de la part des Occidentaux. C'est ainsi que j'ai décidé d'écrire un livre. Il n'y avait pas de livre encore entièrement consacré sur la face. Et donc j'ai décidé de l'écrire.
Alors la notion de société harmonieuse répond parfaitement à la culture de la face.
Complètement. Le fait qu'en Chine, l'harmonie prévaut. En Chine, on va toujours préserver avant tout l'harmonie du groupe, l'harmonie de la relation. Fait que préserver la face, sauvegarder la face de l'autre permet de sauvegarder cette harmonie.
Et surtout en Chine, on ne cherche pas à tout prix à identifier le responsable d'une situation, mais plutôt à la régler.
Complètement. C'est vrai qu'en Occident, on a un peu tendance à, lorsqu'il y a un problème, on a tendance à pointer du doigt quel est le responsable. Et en entreprise notamment, on va tout de suite dire « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» en pointant du doigt la personne qui est fautive. Alors qu'en Chine, tout est fait donc pour sauvegarder la face de notre interlocuteur. Donc au lieu de pointer du doigt, on va surtout parler du cas, du problème et la façon de le régler.
On pourrait avoir une petite anecdote là-dessus, histoire de rendre les choses vivantes.
Alors la petite anecdote, je peux vous parler d'une histoire, une petite histoire chinoise qui illustre parfaitement cette façon de faire à la chinoise. Il s'agit donc d'une vieille histoire chinoise. Un maître en fait a vu son serviteur qui volait du sel dans le cellier. Et le sel à cette époque-là était une denrée rare. Et au lieu de lui dire qu'il l'avait vu voler le sel, il s'approche donc du serviteur et lui dit « Quelqu'un a volé du sel dans le cellier, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour régler la solution? Est-ce que tu pourrais acheter un cadenas pour fermer la porte? Comme ça, le voleur ne pourra plus revenir. » Et donc du coup, le maître a résolu le problème. En même temps, il a sauvegardé la face du serviteur. Et ça, c'est vraiment tout à fait la manière chinoise de faire.
Oui, c'est ça. Il n'a pas cherché le coupable ni le responsable. Alors, la Chine, c'est le pays de la hiérarchie, ce qui change pas mal la donne pour y faire des affaires.
Alors oui, effectivement, le pays de la hiérarchie, elle existe aussi en France, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que en Chine, par exemple, il est inconcevable de contredire un responsable devant d'autres personnes ou en réunion. Il est même inconcevable d'émettre la moindre remarque qui serait susceptible de remettre en cause sa crédibilité. Donc la hiérarchie, elle est plus forte et aussi à tous les niveaux. On la retrouve partout.
Comment éviter les malentendus sur cette notion d'égalité que nous aimons tant défendre ?
Oui, alors effectivement, en Chine, en continuant sur cette notion de hiérarchie, la notion, nous avons cette notion d'égalité qui est très forte, que les Chinois ne valorisent pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre entre les différents niveaux hiérarchiques, mais que chacun a vraiment sa position. Donc au niveau des malentendus, c'est toujours important de faire une distinction vis-à-vis de la hiérarchie. Alors, je prends un exemple, on parlait des cadeaux tout à l'heure. Par exemple, lorsqu'on offre un cadeau en Chine, si on offre des cadeaux pour l'entreprise, pour une entreprise quelconque, il est toujours important de faire une distinction vis-à-vis de la hiérarchie. Si on offre les mêmes cadeaux à tout le monde, on risque de faire perdre la face à la hiérarchie, aux personnes plus haut placées. Donc c'est des petits rites ici dont il faut vraiment faire attention lorsqu'on travaille avec les Chinois.
Parce que sinon on risque de rater son contrat. Et d'ailleurs on n'est pas efficace en Chine de la même manière qu'en France ou aux États-Unis.
Alors sur la question de l'efficacité, je dirais que De manière générale, effectivement, les Chinois vont être plus dans une logique long terme et nous plus dans une logique court terme. Je dirais surtout au niveau de la relation, à savoir la relation est très proche aussi de cette notion de face. Il est très très important en Chine de développer une relation avant même de commencer à travailler business.
Quels sont les risques que nous courons en ignorant cette notion de face ?
Ah ben les risques sont très simples, on risque de perdre le contrat et on risque de briser la négociation après 8 mois de négociation, de tout briser, de tout arrêter, on ne sait pas pourquoi.
C'est impressionnant. Quand on a fait perdre la face à quelqu'un, est-ce que les excuses sont les bienvenues ?
Alors ça dépend. Je dirais, dans les cas diplomatiques, dans les cas vraiment importants, c'est important de faire ses excuses pour redonner de la face à la personne dont on a fait perdre la face. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment qu'elle soit de manière formelle, c'est-à-dire publique et devant les mêmes personnes devant lesquelles on a fait perdre la face à la personne. Mais de manière générale, insister tant bien que mal en disant « Oh là, je suis vraiment désolée, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire », en général, ne ferait que remuer le couteau dans la plaie. Donc je conseillerais de ne pas revenir dessus, de ne rien dire et de ne plus révoquer la face. Par contre, il y a une manière de redonner de la face et de réparer, c'est en redonnant de la face à la personne.
Ça veut dire qu'on n'a pas droit à l'erreur ?
Alors, en Chine, d'ailleurs, montrer ses erreurs, c'est une lourde perte de face. Il y a moyen de réparer, effectivement, mais je dirais que dans la majorité des cas, il vaut mieux y penser avant et ne pas causer la perte de face. Parce que parfois, c'est vraiment irréparable. Et c'est souvent irréparable.
En Chine, les codes ne sont pas les mêmes dans la sphère privée que dans la sphère publique.
Alors, les codes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, vous parlez de la famille, par exemple, en famille où, alors, effectivement, il y aura... Je pense notamment à la politesse. Il y a beaucoup de formes de politesse, de formules de politesse lorsqu'on est dans la sphère extérieure beaucoup moins dans la sphère privé. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que plus il y a distance et moins il y a de formules de politesse. Et par exemple, je me souviens d'une petite anecdote d'une Chinoise qui a vécu quelques années en France, qui est revenue, qui est rentrée chez elle en Chine. Et son père lui a passé le sel et à table et elle lui a dit merci. Et le père était très vexé parce qu'on ne dit pas merci entre gens de la famille.
On dit merci entre gens qui ne se connaissent pas. Les critiques en public ne sont pas vraiment les bienvenues.
Pas du tout. Ça, c'est vraiment la règle d'or, la règle de base en Chine. Si on a des critiques à faire, les faire en privé, jamais en public. C'est une grosse perte de face.
Est-ce que tous ces codes sociaux comme la face sont toujours en vigueur dans la jeune génération ?
La face, c'est vraiment intimement lié à la culture chinoise, donc ça, c'est vraiment pas prêt de disparaître. Je dirais que la jeune génération, pour certains aspects, reste très très attachée à la face, notamment par rapport à l'image, au regard de l'autre, par rapport aux aspects hiérarchiques, de respect de la hiérarchie. Par contre, vont être beaucoup plus directs dans leur communication et surtout vont faire moins attention à tout ce qui est petites coutumes et rites autour des cadeaux ou autour des banquets.
Ça facilitera la vie. Pour nous, la vérité ne se discute pas et c'est une valeur à laquelle nous attachons beaucoup d'importance, mais pas pour les Chinois.
La vérité, ça c'est une grande notion, effectivement, d'ailleurs qui cause beaucoup d'incompréhension entre les Chinois et les Français occidentaux. Effectivement, dans notre culture judéo-chrétienne, on a une vérité unique. Il est important de dire et de connaître la vérité. C'est une valeur importante. En Chine, ce n'est pas que ce n'est pas important la vérité, mais c'est ce qui prime, c'est vraiment la face. Préserver la face, préserver l'harmonie, on revient à ces notions d'harmonie, préserver la relation sera souvent prioritaire sur une quelconque vérité.
Et donc, mieux vaut mentir que perdre la face.
Mieux vaut mentir, je dirais mieux vaut ne pas dire que perdre la face.
C'est plus subtil. Quand un Chinois dit oui, il ne dit pas vraiment oui.
Alors, un Chinois, effectivement, ça dépend du ton, en fait. Un Chinois qui vous dit oui sur un ton indécis et en fuyant le regard, ça ne veut pas forcément dire oui. Effectivement, le oui chinois, ce n'est pas forcément un oui. Ça peut être simplement aussi une forme de politesse, une façon d'éviter de vous dire non, car un non trop brutal en Chine est très impoli et peut risquer de vous faire perdre la face. Donc, les Chinois, en général, éviteront de vous dire non ou trouveront tout un tas de formules pour formuler leur refus sans dire non.
Comment expliquer la notion de honte sociale ?
Alors, la notion de honte sociale se rapproche complètement de cette notion de face. D'ailleurs, quand on parle de face, on peut parler de honte sociale. Et effectivement, la face, c'est vraiment quelque chose qui est public, à savoir que... Pour schématiser, si quelqu'un commet une faute et que personne ne le voit, il n'y a pas, à proprement dit, de perte de face. Et la perte de face, elle devient manifeste à partir du moment où elle devient publique. Donc, c'est à partir du moment où il y a une troisième personne, une tierce personne.
Mais vous avez une anecdote à raconter dans une entreprise, il me semble.
À quel sujet ?
À propos de la... Oui, c'est vrai que votre livre en est truffé, mais j'ai souvenir de quelqu'un qui aurait démissionné suite à cette notion de perte de face.
Ah oui, tout à fait. Alors, il s'agit en fait d'un directeur français qui a critiqué violemment un de ses employés chinois dans l'entreprise, devant tout le monde, devant toute l'entreprise. Et en fait, tous les Chinois pensaient que l'Occident, le directeur occidental français voulait faire partir l'employé chinois. Parce qu'en Chine, on ne critique pas son employé en public. Et quand c'est utilisé, en fait, c'est vraiment utilisé comme technique de licenciement parce que c'est vraiment une grosse perte de face. Et donc, à la fin de l'histoire, l'employé chinois a démissionné. Alors que le directeur français ne voulait absolument pas, c'était vraiment pas ce qu'il avait en tête, il voulait absolument pas qu'il parte parce que c'était un bon employé. Mais effectivement, beaucoup d'employés quittent l'entreprise, beaucoup de cas à cause de pertes de face.
Pas facile l'interculturel. Un Chinois ne se met jamais en colère.
Oh non, aussi, aussi. En principe, non. Encore une fois, c'est le principe. Un Chinois se mettre en colère en Chine, c'est un signe de faiblesse. Donc, il y a un beau proverbe qui dit justement, c'est important de savoir montrer qu'on peut se mettre en colère, mais il ne faut pas se mettre en colère. Par contre, ça peut arriver qu'ils se mettent en colère et en général, il y a souvent un cas de perte de face, pas loin.
Oui, c'est ça, c'est lié. Alors pourquoi les Chinois nous paraissent-ils sourire si souvent ?
Oui, pourquoi ? Oui, je pense que les Chinois ont une certaine distance ou un certain humour par rapport à la vie, par rapport aux problèmes. Donc quand il y a des problèmes, les Chinois vont avoir aussi tendance à sourire. Bon, c'est une manière donc sourire d'être bien, mais parfois aussi il peut arriver que les Chinois sourient justement lorsqu'il y a de graves problèmes où là le sourire est un petit peu différent. Ça sera le sourire gêné, ce qu'on appelle le rire jaune chez nous. Le sourire en chinois, on dit le sourire amer. Donc quand on est dans une difficulté particulière.
Pour réussir en Chine, il faut savoir tenir l'alcool et aimer manger.
Il vaut mieux. Si on veut faire des affaires en Chine, il vaut mieux boire avec les Chinois. Parce que c'est un signe d'amitié, un signe de respect. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de faire perdre aussi la face à votre interlocuteur. Donc pour faire des affaires, oui, il vaut mieux.
Que faut-il faire quand on entend au cours d'un repas « ganbei » ?
Ganbei, il faut suivre, surtout pas mettre la main sur le verre et en disant « non, je ne bois pas ce soir ».
Et il faut le boire cul sec.
Et il faut boire cul sec.
Oui, et donc comme c'est du Mao Tai ou un alcool de grain très fort, c'est pas évident.
Alors effectivement, alors il existe des petites combines, j'en ai mis pas mal d'ailleurs dans mon livre, qui ont été partagées aussi bien par des Chinois que par des Occidentaux. Alors par exemple, si pour boire tout en préservant la face et préservant aussi votre foie, vous pouvez alors par exemple boire beaucoup d'eau ou de thé entre deux verres pour diluer un petit peu l'alcool dans le sang. Si vous avez le choix entre les boissons, si vous pouvez avoir de la bière, ça sera toujours moins fort justement que l'alcool de riz. Et puis aussi, vous pouvez toujours aussi dire que vous êtes sous antibiotiques. La face sera plus ou moins préservée. Bon, le mieux, c'est quand même de boire avec eux.
Vous êtes invité dans une famille chinoise. Que faut-il apporter ?
Alors, vous pouvez apporter, il faut apporter quelque chose, que la coutume est de rapporter un cadeau. Si vous êtes invité à dîner, alors vous pouvez apporter quelque chose. L'idéal, c'est de rapporter quelque chose de typique de votre pays, puisqu'on est dans le Nord, on va éviter le maroilles. tout ce qui se mange est bienvenu. S'il y a des enfants, ça peut être aussi des choses pour les enfants. En tout cas, faire attention aussi à la valeur du cadeau. Voilà.
C'est ça, le critère du bon cadeau, c'est celui qui est cher quand même.
Le critère, oui, ramenez pas un cadeau de pacotille ou une copie ramenée, achetée sur le marché, ça risque de les vexer parce que, en fait, plus le cadeau, d'ailleurs, les Chinois dépensent énormément, en France, ils dépensent énormément en cadeaux, et sur des cadeaux chers, parce que le cadeau cher est une marque aussi de respect, ça veut dire que vous respectez votre interlocuteur.
Faut-il faire des cadeaux quand on négocie un contrat ?
Alors quand on négocie un contrat, les petits cadeaux, c'est une forme aussi d'échange dans toutes les relations professionnelles et la sphère privée est très mélangée, s'entremêle beaucoup en Chine. Et tous ces petits cadeaux, ça fait partie du business, ça fait partie des affaires. Donc ça ne veut pas dire parce qu'on va offrir un cadeau que l'affaire va être faite, mais c'est simplement que ça fait partie de la culture chinoise et de l'entretien des relations en Chine.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on offre dans ces cas-là ?
Alors, qu'est-ce qu'on offre ? Il y a plein de possibilités de cadeaux. Ça peut être, encore une fois, des cadeaux qui sont ramenés typiquement de chez nous. La bouteille de cognac, ça marche très bien. En sachant que là, dernièrement, il y a eu des lois qui régissent un petit peu mieux, un peu plus donc ces histoires, donc c'est les cadeaux en Chine. Et du coup, c'est surtout les producteurs de bouteilles de cognac sont pas contents du tout.
En France ?
Oui, partout, oui, c'est ça.
Alors même les augmentations de salaire sont soumises aux lois de la face.
Ah, les augmentations de salaire. D'abord, on disait tout à l'heure, je disais que il y avait beaucoup de cas de démission à cause de perte de face. Et les Chinois aussi quittent leur entreprise aussi pour la promotion ou des problèmes de salaire ou pour gagner plus ailleurs. Donc c'est important d'augmenter ses salariés. Ça montre aussi qu'ils ont eu du mérite et c'est vraiment dans la culture chinoise d'augmenter souvent en fait plus qu'en France.
Alors vous citez dans votre livre quelqu'un qui en avait promis 250 oui. RMB et puis dit ah ben non pas 250 c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible 250 ?
Oui, 250, oui, il avait donné 250 en augmentation de salaire. C'était pas possible. Il voulait ni moins ni plus, enfin, surtout pas 250. Parce que 250, quand vous dites 250, il y a une expression en chinois qui veut dire que vous êtes stupide. Donc quand vous négociez sur les marchés, pareil, évitez de négocier à 250 le prix de vos produits.
Voilà un bon tuyau. Alors quand peut-on offrir de l'argent ?
On offre de l'argent surtout aux occasions de mariage, aux occasions pour le Nouvel An chinois. Par contre, oui, je raconte aussi une anecdote où pour la naissance de l'enfant d'un fournisseur, les Occidentaux, c'était les Français, voulaient justement offrir de l'argent parce que ça se fait beaucoup en Chine. Et le Chinois en question a été extrêmement vexé parce que pour une naissance, on n'offre surtout pas de l'argent. Donc il faut faire attention à offrir vraiment simplement dans certaines occasions.
Est-ce qu'il y a des cadeaux à proscrire ?
Des cadeaux à proscrire, je vais vous parler surtout de l'horloge. L'horloge, tout simplement parce que en chinois, l'horloge se prononce zhong. Et zhong, en chinois, veut dire la fin de ou être sur son lit de mort. Donc, autant dire que c'est la pire des choses à offrir à des Chinois.
Nous écoutions Anne-Laure Monfray à propos de son livre « Comment ne pas faire perdre la face à un Chinois » publié aux éditions Dunod.